Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. J'aimerais vous proposer deux lectures ce matin. Une première lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 1er. On va lire le chapitre entier, un petit peu long, mais je pense que c'est un rappel nécessaire. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qu'il vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, à l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Deuxième lecture, si vous voulez bien, elle sera beaucoup plus courte, mais qui corrobore avec la précédente, avec celle que nous venons de faire. Ésaïe, chapitre 21, verset 11. Oracle sur Dumas, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Je reprends cette simple parole. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole que nous ouvrons ce matin. J'aimerais, rappeler une grande vérité où l'Église a besoin plus que jamais d'être réenseignée ou de se renouveler dans cette perspective. C'est le retour du Seigneur. Il me semble qu'on a mis un peu cela de côté. On parle de beaucoup de choses dans les communautés, dans les églises, mais on entend de plus en plus rarement ce sujet, parce que, je ne sais pas, il ne doit plus être au goût du jour. Et pourtant, je crois qu'il est de pleine actualité aujourd'hui. Lorsque nous regardons un petit peu autour de nous, parce que vous n'êtes certainement pas sans prendre les informations et puis tout ce qui se passe dans notre monde. Hein, et en fait, d'informations, il y en a. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les natures. Et ce ne sont pas toujours des bonnes nouvelles, on le sait. Et peut-être si nous pouvions qualifier notre réflexion ce matin, nous pourrions parler de monde en flammes. Ou si vous aimez mieux, de monde en feu. Alors c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des siècles, l'histoire des hommes, des temps où certainement que ces hommes contemporains de ces événements étaient à penser, et probablement des enfants de Dieu étaient à penser que c'était la fin, c'était le bouleversement et que bien le Seigneur allait revenir. Alors je crois qu'il faut toujours en permanence s'entretenir et garder au fond de notre cœur cette grande vérité biblique, évangélique s'il en est, de la proximité du retour de Jésus. Et pour plusieurs raisons. Parce que l'Église se sanctifie en attendant. L'Église approfondit cette rencontre avec son Sauveur et son Seigneur. Et puis je crois que l'Église doit en tirer aussi les conséquences, puisque c'est un ordre, de travailler. Nous avons entendu des exhortations la semaine dernière qui allaient dans ce sens. Et je pense que la sentinelle crie « le jour vient », mais la nuit aussi. Comprenez ce que ça veut dire. Le jour du retour de Jésus vient. Mais la nuit s'appesantit sur notre monde, comme peut-être jamais auparavant. On est dans une société où, s'il y a beaucoup de lumière, elle est artificielle. On n'a jamais autant éclairé nos villes, on n'a jamais autant éclairé nos campagnes, on n'a jamais autant éclairé, mais de ce... Enfin, voyez ce que je pense. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de lumière, mais attention, de quelle lumière parlons-nous? Et parallèlement, autant il y a finalement, là où les hommes fuient les ténèbres naturelles, autant il y a de l'obscurantisme, autant il y a de la méconnaissance, de l'ignorance profonde des choses spirituelles, et particulièrement du retour de Jésus. Donc, un monde en feu. Je vais commencer par un fait divers. Il y a quelques années, le Parlement de Bretagne à Rennes, vous vous en souviendrez probablement, a défrayé la chronique régionale et nationale, puisqu'on en a parlé dans les journaux, à la radio, on en a parlé longuement également à la télévision, a été détruit par un incendie accidentel. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de mauvaises intentions, mais Toute la question a été relevée, selon les experts, et bien qu'il y avait eu finalement là un incendie d'origine accidentelle. Je ne sais pas si vous connaissez Rennes, c'est un très très beau bâtiment que le Parlement de Bretagne, hein, et qui a traversé aussi le temps. Alors ce somptueux bâtiment était alors en restauration. La municipalité avait mandaté divers corps de métier pour rénover ce palais, parce que c'en était un, et c'est à ce moment-là, au moment de la restauration, qu'est survenu le sinistre. Il paraît que durant les travaux qui étaient faits dans cet endroit, le système d'alarme, parce qu'il y en avait un auparavant, le système d'alarme se déclenchait automatiquement, journellement, on pourrait dire même à chaque instant. Alors quelqu'un, des ouvriers ou des responsables, a eu l'idée de couper, désamorcer le système d'alarme pour pouvoir travailler tranquille et être délivré, être soulagé de son fonctionnement intempestif. Il aurait mieux peut-être valu tout simplement réparer la chose que de couper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple, c'est que la suite, on la connaît. Et quand réellement, pour les raisons que je vous ai dit vraisemblablement accidentelles, l'incendie s'est déclaré, personne n'a pu intervenir à temps, et cela a occasionné un désastre sans précédent. Et il ne restait plus rien, alors ça a été quelque chose, parce que tous ceux qui étaient des amoureux du patrimoine et des belles œuvres, eh bien, on était pour leurs frais, parce qu'il ne restait finalement plus rien, il n'y avait plus que les murs. Tout avait disparu, et c'était quelque chose de considérable. Alors je crois qu'en partant de cette idée, c'est une anecdote malheureuse, j'ai voulu la présenter ce matin. Eh bien, cette anecdote malheureuse nous fait penser à tous les signaux d'alarme qui sont là, ou autres avertisseurs, dans notre monde, qui sont autour de nous, que les hommes coupent pour soi-disant être tranquilles. Eh oui. Il y a des choses qui finalement, eh bien, sont neutralisées, et justement, de ne pas pouvoir supporter d'être dérangé, soit par autrui, ou tout simplement par leur propre conscience. Alors qu'est-ce que l'on fait? Puisque ça sonne si souvent, et ça sonne de plus en plus, que ce soit un signal sonore, que ce soit un signal lumineux, alors pour être tranquille, eh bien on coupe. Et on se dit maintenant on va pouvoir faire ce que l'on veut. On pouvait avoir vivre tranquille. Si ce raisonnement n'était que le raisonnement de gens qui ignorent Dieu ou qui n'ont pas d'espérance, on pourrait dire, bon, ils ne savent pas. Mais le problème, c'est que nous nous apercevons que ce genre de réaction, maintenant nous le trouvons aussi au cœur et au sein du peuple de Dieu, où là, eh bien, on va débrancher les signaux ou les avertisseurs. Alors, tout cela en pensant que on va être tranquille, tout en se persuadant naturellement que de danger, il n'y en a pas. Vous savez, on vit dans un monde assez trompeur, parce que notre société vit dans un contexte où on s'est donné les moyens de se sécuriser. Comme jamais auparavant, probablement nos aïeux, même peut-être beaucoup plus près, nos grands-parents, eh bien, la vie était rude. Et on peut dire qu'il n'y avait pas de matelas ou de tampons de sécurité, c'est-à-dire que on voyait des pauvres gens qui travaillaient toute leur vie avec des familles nombreuses, rien du tout, hein. Tant au niveau de la santé qu'au niveau des aides familiales, peut-être que certains vous avez connu ça. Alors on vit dans un monde qui est quelque part, eh bien, rassurant. On se dit, bien, c'est vrai que, hein, on a des hôpitaux, on a des médecins, on a des médicaments, on a des allocations, on a ceci et cela. Enfin, je suis pas en train de faire déjà ma campagne présidentielle, je me présente pas, je vous le dis tout de suite. Mais toujours est-il que ça fausse les choses. Et ceci, naturellement, entraîne probablement une certaine désaffection de la foi. Et en particulier aussi parmi les enfants de Dieu. Alors, c'est vrai que nous sommes dans des temps où vous êtes bien obligés, parce qu'on nous fait l'obligation de souscrire à des assurances. Quelquefois, on est assuré pour plusieurs fois pour le même risque, et on ne sait pas. Mais le jour où vous aurez un sinistre, il n'y en aura qu'un qui remboursera, il y a un patron. Alors, c'est cela, notre société. Et on se conforte en disant, bien voilà, de danger, il n'y en a pas. Ou si finalement il y a danger, nous avons tout prévu. Nous avons mis les choses finalement en ordre. Alors, instinctivement, devant cette pression qui se fait, elle est insidieuse, elle est silencieuse, elle est sournoise. Alors, la réaction que nous avons, c'est qu'on débranche, tout simplement. Eh bien, l'alarme, ou tout simplement, on ferme les oreilles et les yeux, on se dit, bien, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Et petit à petit, on décroche. On décroche de la foi, on décroche de cette indispensable communion ou relation avec Dieu. On décroche peut-être même d'une connaissance renouvelée, approfondie, ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. On décroche quelque part également de cette relation parlée avec Dieu. On décroche également, on coupe le système d'alarme où il faut s'empoigner pour avoir le réflexe, et normalement ça ne devrait pas être un réflexe, ça devrait être quelque chose de naturel de parler en langue en permanence. Vous savez, ça a été donné comme un fleuve d'eau vive. Et on s'aperçoit que petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, peut-être qu'on use de moins en moins de ce que Dieu nous a donné, de ce trésor que Dieu nous a donné. Voilà, on coupe. Comment je disais tout à l'heure, eh bien, on neutralise. On neutralise. Ce réflexe, ce refus, imprudent, d'écouter les signaux sonores ou encore les conseils inspirés par le simple bon sens, parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des exhortations à caractère éminemment spirituel, mais aussi nous sommes des hommes et Dieu ne nous a pas demandé de nous départir de notre bon sens. Et il y a des choses qui vont nous avertir et qui font appel à notre bon sens. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Et si nous attendons d'avoir des révélations, peut-être que Dieu ne nous donnera pas de révélations parce qu'il nous dira tout simplement, tu sais déjà ce qu'il faut faire, eh bien, tu n'as pas besoin d'autre chose, eh bien, maintenant fais marcher ton bon sens. Et qui plus est, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, Dieu nous a revêtus aussi d'une intelligence qui n'est pas seulement une intelligence humaine, mais une intelligence spirituelle. Et ça, faut l'entretenir. C'est tous les jours qu'il faut l'entretenir. On devrait se souvenir de ce que nous dit le psaume. Un psaume que j'aime beaucoup, parce que c'est un psaume à la fois qui nous parle d'une prise de conscience d'un homme qui a péché, et qui se ressaisit et qui va faire une nouvelle expérience, un renouvellement. Psaume 32, je cite simplement le verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, ils ne l'atteindront nullement. » Devant toute la sécurité que l'on nous offre, eh bien voilà. Tu m'entoures, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Et puis le verset que je voulais souligner devant vous, je t'instruirai, dit Dieu, et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Est-ce que l'on peut trouver mieux? Est-ce qu'on peut trouver plus fort? Est-ce qu'on peut retrouver plus rassurant? Est-ce que l'on peut trouver des paroles qui nous invitent à plus de confiance que celle-ci? Alors, ceci dit, eh bien, la société moderne de l'assurance tout risque et du risque zéro, parce que ça on en entend tous les jours, d'ici quelque temps j'en parle avec mon épouse, je me dis, mais on va plus pouvoir respirer. Hein. Ouais. On essaie d'anticiper les accidents, c'est bien, on essaie d'anticiper tout ce qui pourrait survenir. Mais c'est peut-être le paradoxe de notre monde et de notre société, où là on est en train, avec beaucoup de méticulosité, de chercher les défauts qui pourraient arriver, les problèmes qui pourraient surgir, alors qu'il suffit tout simplement d'une coupure d'électricité pour que tout ça reste dans notre monde. Vous avez entendu, il y a 15 jours, vous vous rendez compte, un problème dans un pays européen, et puis on est obligé de délester finalement tous les autres pays. Alors bon, ça passait, mais un jour peut-être que ça passera pas. Imaginez-vous toutes les implications que ça peut avoir, toutes les incidences. On peut pas s'imaginer. Hein. Alors vous rendez compte? On est le colosse, dans notre société est vraiment la représentation du colosse au pied d'argile. Ah ouais. C'est rien du tout. Parce que je voudrais quand même vous dire que le fer, F-E-R, et l'argile, ça ne se mélange pas ensemble. Ça va pas, ça colle pas. Et ça ne collera jamais. Alors quand on voit un petit peu là tout ce qui se passe et tout ce que les hommes font pour le durcissement des lois, ceci et cela, c'est parce que l'iniquité s'est accrue quand on durcit les lois, on est bien d'accord. Hein, parce que les gens devraient obéir finalement avec aussi le bon sens et puis de la civilité. Mais on est obligé de renforcer les choses, à tel point qu'on se demande si bientôt Hein, on va pas nous demander, on va avoir des autorisations et des sauf-conduits pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire ceci et cela. Donc, je parlais tout simplement, eh bien là, de cette société de risque zéro. Eh bien, elle est illusoire, elle est trompeuse, lorsque l'on sait qu'à côté de ça, nous sommes si fragiles. Et lorsqu'il s'agit de la dimension éternelle de l'homme, alors là, je peux vous dire que on n'en parle pas du tout. C'est quelque chose qui gêne. C'est quelque chose qui embarrasse notre société à tel point que, eh bien, dans les programmes, vous verrez, hein, avec tout ce que vous allez entendre dans les mois qui vont venir, bah vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose hein, dans ce domaine-là. Hein. Au contraire, on veut l'évacuer. On respecte la sacro-sainte liberté de conscience individuelle. Mais c'est bien déjà, parce qu'avant, on ne l'avait pas. Avant la Révolution, on ne l'avait pas. C'est déjà pas mal, mais ça va nous amener aussi au contraire. Alors, quand Dieu parle... Et quand Dieu se fait entendre à travers sa parole, à travers la prédication, à travers tout ce qui peut être multiplié dans notre monde pour dire « Mais Dieu existe !» Et il aime les hommes pour les sauver, alors c'est encore moins entendu et écouté que tout le reste lorsque l'avertisseur de Dieu, qui est l'Évangile, authentique signal d'alarme, eh bien, qui en même temps a plusieurs vocations, parce que ce signal d'alarme qu'est l'Évangile prévient, et il offre du secours, il offre le salut, il offre un refuge, quand la vie des hommes s'enflamme. Et ça, c'est certainement peut-être la dernière chose que le monde irait chercher. Ce signal-là met en garde sur le mal et ses conséquences, toujours ruineuses. Mais il semblerait que la charité, finalement, va se refroidir, l'iniquité va aller en augmentant, et personne ne prend conscience qu'à partir des causes réelles, des causes profondes, des causes morales, des causes spirituelles, avec toutes les conséquences et les incidences que ça peut avoir, personne n'a l'idée de dire, eh bien voilà, il y a ceci, mais en raison de cela. Et ça, c'est terrible. Et pourtant, l'Évangile le dit. Jésus en parle. Averti du péché poison de l'existence des hommes, parce que c'est véritablement un poison mortel, des dangers de la haine, de l'égoïsme, de la mort et de son après. L'Évangile parle de tout ça. Et finalement, eh bien, tous ces périls nombreux, toujours possibles et en tout temps, c'est ce que Jésus nous dit dans le texte. Et le titre, probablement de votre Bible, c'est marqué « Vigilance ». Vigilance. Avoir... finalement, cette attitude d'être non pas endormi, mais de rester éveillé, de voir un peu tout ce qui se passe. Et si nous recherchons dans ce domaine, nous verrons combien les avertissements de Jésus sont pertinents et combien ils sont d'actualité. Et Jésus de dire à qui veut l'entendre, cette petite phrase que nous avons lue tout à l'heure, « Je vous ai tout annoncé d'avance ». Et c'est fait. Et pourtant, ça fait 2000 ans que les choses sont annoncées. 2000 ans. Alors, j'ajoute que nous débranchons le contact pour un certain, et je modifie le mot, un incertain confort. Vous savez que le confort, hein, qui on peut le reconnaître comme une bénédiction de Dieu et n'oublions pas de le louer pour notre vie personnelle, mais c'est quelque chose qui a entraîné à la perdition et qui a éloigné nombre d'hommes, de femmes, d'enfants de Dieu loin du Seigneur. On s'endort dans quelque chose de moelleux. Je ne suis pas pour la rudesse et puis l'ascétisme et devenir des fakirs, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il faut bien quand même dire que quelle déperdition dans nos églises. Et tout ça parce que, quelque part, eh bien, on s'est avachi. Et c'est vrai. Je me demande, et c'est une réflexion personnelle, hein, vous n'en tenez pas compte, mais je le dis quand même, je me demande ce que sera la génération de nos petits-enfants. Ouais. Où on fait tout à leur place. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous appréhendez les choses, mais c'est vrai qu'on fait tout à leur place. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que peut-être que le goût de l'effort, c'est quelque chose de stimulant. C'est quelque chose qui fait vivre le goût de l'effort. Et s'il y a tant de dépression, s'il y a tant de gens qui ont du vague à l'âme, qui sont là avec toute cette... je ne sais pas, il n'y a plus de consistance. Eh bien, des existences qui n'ont plus de perspective, c'est peut-être justement là un grand fléau. Parce que on ne combat plus pour la vie. On ne se bat pas pour telle ou telle raison. Hein, et puis ne serait-ce que pour survivre. C'est cela qui, certainement, est peut-être terrible. Remarquons que, bien souvent, tout commence par une étincelle. Et certainement, je vais vous parler du Parlement de... C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Une étincelle. Une petite étincelle, ou tout simplement un brandon fumant, qui n'en finit pas de s'éteindre. Et on se dit, ah, il va finir par s'éteindre. On sait qu'il y a des brandons dans le monde. On sait qu'il y en a quelquefois, même dans la vie des hommes, des brandons. Ils sont fumants. Et on se dit, bon, ça va s'arrêter à un moment donné. On va faire en sorte qu'on ne va pas l'alimenter. Mais méfions-nous. Nous sommes là interpellés parce que quelquefois, tant qu'il y a du feu à l'intérieur, eh bien, on ne sait pas ce que ça peut faire. Est-ce que ça peut dégénérer? J'aime bien cette parole, ça doit être dans le livre des Proverbes, vous vous en souviendrez parce que vous connaissez bien votre Bible. Il est dit, quel est l'homme qui mettra du feu dans son sein sans que son vêtement s'enflamme? Vous connaissez cette parole, hein, certainement? Eh bien, c'est vrai. Et quelquefois, on dirait que dans certains cas, dans notre société en général, mais parfois dans la vie des enfants de Dieu, eh bien là, il y a un petit brandon qui reste. Oh, il est imperceptible, il ne se voit pas, mais qu'adviendra-t-il ce brandon? Vous savez, les circonstances ne nous appartiennent pas. Hein. Et qui a la faveur d'un courant d'air, parce que quand je dis courant d'air, moi je pense au prince de l'air, au prince de la puissance de l'air. Parce qu'il a son rôle à jouer aussi. Hein. Alors, à la faveur d'un courant d'air, ou tout simplement d'une négligence, eh bien, éclate l'incendie sans que personne ne l'ait vu arriver ou même soupçonné. Et puis, on se trouve devant, finalement, eh bien, un véritable désastre. Désastre de société, désastre de vie, désastre peut-être même parfois dans une église. Et quand on parle d'église, quelquefois, eh bien, ça peut arriver qu'il y ait des brandons sous les chaises. On ne l'a pas vu. D'une manière ou d'une autre. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit que il faut vite courir chercher les pompiers. Hein. Et puis c'est pas ceux qui sont à la caserne de Saint-Nazaire qui vont pouvoir nous aider hein, dans ce genre d'incendie. Hein. Alors, et ça fait toujours des dégâts, même dans un incendie classique, normal, naturel, les pompiers, ils n'ont qu'une chose, hein, ils n'ont qu'un but à atteindre, c'est d'éteindre le feu. Mais ils vont tout casser à côté, hein. Ils vont pas se gêner, ils vont pas ouvrir les portes avec une clé. Hein. Ils vont prendre une hache, ils vont casser tout, et puis tout ce qui devra être cassé sera cassé. Je peux vous dire quel désastre après. Hein. Mais bon, ils le font pour la bonne raison qu'il faut pas que ça s'étende. On comprend hein, leur technique d'attaque de l'incendie. Mais quand il y a aussi ce genre d'incendie dans les vies et dans une église, eh bien c'est exactement la même chose. Hein. Il restera aussi quand même des traces. Alors, nous sommes dans cette réflexion. Et le résultat, ce sont des ruines et des cendres. On pourrait dire que dans le monde, dans notre monde, le feu couve toujours et en permanence. Et on pourra bien mettre tous les pare-feux que l'on veut. On pourra bien donner l'obligation, comme dans un département du sud de la France, de débroussaillage obligatoire, sous peine d'amende. On pourra bien se munir d'extincteurs et autres couvre-feux. Tout cela sera insuffisant. Reportez ça sur le plan spirituel, vous verrez que, de toute façon, si véritablement on est endormi et si véritablement, eh bien là, on est passé en dehors des avertissements et qu'on a coupé les signaux d'alarme, eh bien, finalement, eh bien, les choses iront vers leur ruine. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y aura toujours des incendiaires et des pyromanes. Et ça, c'est terrible. Et quelquefois, je me suis entendu dire, ça doit être vrai, que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais c'était les pompiers qui allumaient le feu pour pouvoir monter au créneau et pour pouvoir toucher les primes. Mais non, je retire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de pompiers parmi nous. Je ne voudrais pas allumer le feu. Hein. Mais c'est vrai que c'est terrible. Et dans le monde, il y aura toujours des incendiaires. Et quelquefois, il peut arriver qu'il y ait des incendiaires aussi au milieu du peuple de Dieu. Et qui ne rêve que de voir le monde en flammes. Vous savez, l'histoire générale nous a montré qu'il y en a eu des incendiaires. Ils avaient les moyens. Ils avaient des lance-flammes. Je pense à tout ce qui a ensanglanté notre Europe, même dans les temps récents. C'est terrible. Terrible. Alors la guerre... Les maladies qui déciment, c'est encore d'actualité, hein, nous l'avons vu, il y aura des épidémies, il y aura des pestes, il y aura des famines, il y aura ceci et cela, Jésus nous en parle. La peur qui devient panique chez les gens, les violences de toutes sortes, ça on en parle tous les jours de la violence. Hein. La corruption, l'effondrement des principes moraux, parce que jamais la société a été si mal en point sur le plan des principes et de la moralité. L'effondrement donc de tout cela, le sabotage de l'éthique qui sape la société, puisque maintenant le bien c'est mal et mal c'est bien. Et l'on va vous encourager lorsque vous faites des choses qui sont scandaleuses et choquantes. Je n'invente rien, ce n'est pas pour jeter le feu que je dis ça, mais c'est quand même une constatation. Ce sont des faits. La révolte de la jeunesse, l'oisiveté, et puis autant de mèches reliées au baril de poudre ou tout simplement au bâton de dynamite et qui n'attend que ça explose. Frères et sœurs, je ne voudrais pas être pessimiste et je ne suis pas prophète de malheur. Mais il faut s'attendre que dans les temps qui vont venir, je dis bien les temps, hein, je vais être, parce que je ne sais pas plus que vous, mais il arrivera des choses. Alors vous allez me dire, je ne prends pas de risque en disant ça parce que, vous savez, on a commencé notre siècle, enfin notre millénaire avec là les tours de New York, et ça on n'avait jamais vu une chose pareille, hein. C'était assez époustouflant, on croyait tous à un film. C'était pas un film, c'était une réalité. Vous savez, le mal n'a pas de limite. Le diable est ingénieux. Et qu'est-ce qu'il va nous sortir? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il faut s'y attendre. On n'est pas dans un monde de sécurité. On n'est pas dans un monde qui va aller de mieux en mieux. On n'est pas dans un monde qui va finalement eh bien trouver les solutions, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein. Trouver les solutions à ceci et cela. On s'aperçoit que nous sommes véritablement, excusez-moi l'expression, mais dans un véritable bourbier quelque part. Un bourbier. Alors, tout ça, eh bien, Jésus avait raison, me semble-t-il. Alors bien sûr, il faut toujours remettre les choses dans son contexte, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas surfer sur les événements même d'aujourd'hui. Et... Non, mais je crois qu'il faut quand même rester conscient des avertissements qui nous ont été donnés. Le monde risque finalement l'embrasement généralisé, mais hélas, au lieu d'écouter sérieusement les avertissements de Dieu, les hommes préfèrent, quand les flammes dévorent déjà, eh bien, déployer leur, tout simplement leurs pompiers dérisoires. Et on va à ceci, on va à cela, on essaie de trouver des solutions. Alors le monde qu'il trouve des solutions humaines, on le comprend, est charnel. Mais que l'Église trouve et mette des emplates sur la blessure, des choses qui sont d'aucun secours, comme nous dit le prophète Jérémie, eh bien là, je peux vous dire qu'on est mal parti. À un problème spirituel, il faut des réponses, il faut un remède spirituel. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair, il faut bien le comprendre, ça. Alors, ce feu-là, allumé et combattu par l'homme, ne s'éteint jamais. En tous les cas, l'homme ne fait que l'étouffer pour une meilleure occasion, pour une autre occasion. La Bible ne cesse de nous prévenir que ce n'est pas le moment de couper, tout simplement, les signaux et les systèmes d'alarme. Parce que c'est une pure folie suicidaire. Alors, souvenons-nous maintenant très brièvement de ces histoires que nous relate la Bible pour notre prévention. Si je vous dis Noé et sa génération, il était dans un temps crucial de l'histoire, Noé, hein, au sortir finalement de l'Éden. L'homme apparaissait finalement déjà entaché, mais il sortait des mains géniales du Créateur. Et pourtant il nous est dit que quand Dieu a regardé vers le monde, toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. C'est terrible, hein ? Toutes les pensées de l'homme, et Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. Alors Noé, il a été, lui, en son temps, le système d'alarme. Enfin, excusez-moi l'expression, je veux respecter le personnage, mais la parole de Dieu nous dit qu'il était un prédicateur de la justice, en son temps et en sa génération. Et qu'est-ce que faisaient les autres ? Eh bien, ils se moquaient. Construire une arche, alors qu'on ne connaissait pas finalement, et bien là, hein, peut-être dans un désert, sur le sable, on pensait que c'était certainement un illuminé, un excentrique Noé, prédicateur de la justice. Alors il a été finalement, et il semblerait que quand on a vu Noé, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors on a commencé à s'empresser à débrancher tous les systèmes d'alarme. Parce que lui était en train de dire, attendez, en raison de ceci, en raison de cela, eh bien votre monde va disparaître. Parce qu'il y a bien un après et un avant, hein. Enfin, un avant et un après. Noé, le monde antidéluvien. Alors, il y a eu Noé et sa génération, il y a eu Lot et Sodome et Gomorre. Eh oui, là aussi, il a voulu se mettre le nez. Ça caractérise peut-être un petit peu, quelquefois, les chrétiens un petit peu audacieux, qui se disent, finalement, le monde, c'est pas mal. Ils étaient sympas, les gens à Sodome et Gomorre. Il y avait de l'animation, il y avait de l'agitation, il y avait tout ce que vous voulez. Alors il s'est dit, maintenant, moi, je me languis dans mes montagnes avec mon oncle, et c'est pas toujours très drôle, très marrant. Alors je vais descendre parce que la vallée elle est luxuriante, hein. Il y a un fleuve qui arrose et puis il y a de la nourriture pour mes troupeaux, je vais prospérer, etc., etc. Lui il connaissait déjà, il avait une doctrine, c'était la doctrine de la prospérité. Et il s'est dit, moi je descends. Et il est descendu, hein. Mais en descendant il a tout perdu. Parce que là il y avait encore quand même des choses et il était pourtant un signal d'alarme. Puisque je crois que c'est dans le livre de Jude, si ma mémoire est fidèle, il nous a dit qu'il tourmentait jour et nuit son âme de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Frères et sœurs, c'est terrible de ne plus avoir de réaction devant ce qui se passe autour de nous. De banaliser, de dire, ah bah oui, mais c'est le monde, c'est comme ça. Moi, il y a des choses qui me choquent encore et je voudrais que ça me choque encore davantage. Parce que quand on est sans réaction, eh bien, nos défenses immunitaires, hein, comprenez là, la maladie qui court, hein, en ce moment, hein, cette perte de défense immunitaire va nous amener finalement à être contaminés, à attraper de n'importe quoi. Il faut réagir encore. Oh, réagir. Ne soyons pas juges. Parce que ça ne servira à rien, ça n'amènera à rien. Mais en tous les cas, ça corrobore un peu ce que nous allons tirer en conclusion. Continuons à travailler pour faire connaître à des gens qui ignorent le Seigneur, qu'il est venu pour les sauver. Et puis, il y a les paroles de Deutéronome pour Israël au sortir de l'Égypte. Chapitre 30. Si tu me sers. Si... tu m'aimes, en quelque sorte. Si tu me suis, je bénirai ton eau, je bénirai ton pain, j'éloignerai la maladie de toi, je te donnerai la prospérité, je te donnerai ceci et cela, parce qu'il y a quand même une grande différence entre aller chercher la prospérité par nous-mêmes et attendre que Dieu nous la donne. Que Dieu te bénisse, mais qu'il te garde. Connaissez le psaume. Alors, ça c'est aussi Deutéronome pour Israël, chapitre 30. Et puis, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem, la ville de son cœur. La ville du grand Dieu, et Jésus pleure. Oh, si tu connaissais les temps, et si tu connaissais la paix qui t'est réservée, mais tu ne l'as pas voulu. Comme une poule, eh bien là, elle cherche à abriter ses petits sous ses ailes, eh bien toi, tu es parti dans tous les sens. Si tu connaissais la paix qui t'est réservée. Et Jésus pleure, vraiment il pleure. Alors c'est encore cet avertisseur. C'est aussi le livre de l'Apocalypse pour nous aujourd'hui. Livre que nous ouvrons quand même de temps en temps, mais qui mérite d'être ouvert peut-être plus que les autres aujourd'hui dans notre temps. Livre de l'Apocalypse, qui nous prévient des choses, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser à première lecture, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de jugement, je ne veux choquer personne, mais c'est un livre encore qui tend in extremis la main à tous ceux qui veulent se repentir. Ouais, c'est sûr qu'il y ait question de jugement, c'est sûr qu'il est question des choses qui vont arriver sur le monde. Mais n'entendons pas encore Dieu dire, mais venez à moi, je vais bientôt, mais je vous tends encore, je vous présente celui que j'ai donné au monde pour que vous croyiez en lui et que vous soyez sauvés. Avertisseur. Et puis pour notre actualité brûlante, les lumières prophétiques et bibliques que nous pouvons constater et mesurer dans leur réalité, finalement, avec tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez, il y a un clignotant qui ne cesse de briller dans notre monde, c'est Israël. Et ça brille. Et ça, on ne sait pas comment l'arrêter, celui-ci. Les hommes essaient d'une manière ou d'une autre, mais il ne s'arrêtera pas. Puis il y en a bien d'autres, naturellement. Nombre de clignotants sont au rouge sur le cadran du contrôle du monde. On peut dire ça comme ça. À celui qui sait voir, eh bien, ces clignotants affichent tous un danger à haut niveau et imminent. Que sera notre monde dans 10 ans? Dans 20 ans, dans 30 ans, moi je serai plus là. Et heureusement. Pas que j'ai envie de mourir, hein. Je ne fais pas d'une anorasthénie. Mais, c'est vrai. On se dit, quel monde va-t-on laisser à nos enfants, hein? Et quelle sera la génération qui va remplacer les hommes et les femmes d'aujourd'hui dans l'Église? Je ne veux pas être pessimiste, mais moi je crois intimement qu'il faudra des grands événements pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre monde et particulièrement au niveau de l'Église. Un ressaisissement. C'est une vue personnelle. Je prends à témoin simplement cette parole dans Matthieu au chapitre 24, qui est un petit peu ce que nous avons lu tout à l'heure, mais je le trouve dans Matthieu, c'est toujours Jésus qui parle, 24, 4, 8, il est dit ceci, « Jésus répondit à ses disciples qui lui demandaient quel sera l'avènement de la fin du monde. Alors Jésus leur a répondu, « Prenez garde. » Que personne ne vous séduise. Alors s'il y a quelque chose aujourd'hui qui marche bien, c'est véritablement la séduction. En tous les domaines, hein, et particulièrement la séduction spirituelle. Les gens courent le monde à la recherche et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et puis, car plusieurs viendront sous mon nom, et ils viendront avec beaucoup d'aplomb, ils diront, mais c'est moi qui suis le Christ, et c'est déjà arrivé, hein, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, quand on connaît bien la parole de Dieu, on peut pas tomber dans ce genre de piège-là. On connaît la parole de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, hein, ne vous tracassez pas, parce qu'il y en a, et puis il y en aura d'autres. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Et Jésus nous dit ceci, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors vous-même, mes enfants, vous-même, mes disciples, eh bien on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Alors vous savez, si nous attendons dans l'Église de Jésus-Christ d'avoir les applaudissements du monde, c'est pas demain la veille. Et si c'est demain la veille, eh bien ce sera un grand danger. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront et trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et merci Seigneur pour la suite. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il y a eu une œuvre en France. Je dis il y a eu. Je pourrais peut-être ajouter que c'est dommage que les choses se soient ralenties. Mais je bénis que si nous, les premiers, nous sommes les derniers aujourd'hui, les derniers d'hier sont les premiers sur la scène de l'évangélisation mondiale. Je pense aux pays du tiers-monde où il se passe des choses extraordinaires. Formidable. Alors, à ce moment-là, viendra la fin. Merci pour les missionnaires. Merci pour ceux qui traduisent la parole de Dieu et qui la dispensent dans toutes les langues de gens qui finalement... Eh bien, ils ne connaissent pas grand-chose, mais qui connaîtront une chose. En tous les cas, ils connaîtront Jésus-Christ, ils y croiront. Puis je termine. Parmi les signes de la fin des temps, il y aura aussi la dégradation du caractère moral des hommes. Il y aura des séductions, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura toutes sortes de choses. Mais c'est l'apôtre Paul qui était certainement persuadé de ce qu'il écrivait, parce qu'il l'a si bien écrit, et qui nous dit tout simplement, dans 2 Timothée, il parlera de cette manière, il dira, ça c'est encore un signal d'alarme. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et j'ai toujours été interpellé que ça commence par l'égoïsme. L'ego est le moi roi. Ouais. C'est plus Jésus qui a la place, hein. C'est plus le Seigneur, hein. C'est le moi, 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 moi. Il y a quelqu'un qui a dit, vous le savez peut-être, je le rappelle, « Moi », ça s'écrit « M-O-I », c'est un gros zéro entre le « M » et le « I ». Ça peut être vu comme ça aussi. Égoïsme, ami de l'argent, on est dedans. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la foi, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les gens veulent bien être religieux, mais ils ne veulent pas donner leur vie pour devenir des hommes et des femmes spirituels, se convertir, se repentir, se convertir et naître de nouveau, ayant l'apparence de la foi. Et puis, également, parmi les signaux d'alarme, il y a la folie d'un monde en déliquescence spirituelle. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, où je restitue tout simplement cette petite partie. Il est dit ceci, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » On ne peut plus voir un spectacle où il n'y a pas de magie aujourd'hui. D'occultisme déguisé, que l'on appellera ou qu'on appelait dans le temps prestidigitation. Et les gens sont friands de cela. Comme jamais auparavant, ce monde parallèle, ténébreux et obscur, tient une place considérable. Mais ça a toujours été, parce que dans l'Antiquité, la magie et l'astrologie et tout ça, c'était la religion. Ben aujourd'hui, c'est la même chose. Et on comprend que parmi les signaux d'alarme qui nous avertissent que finalement le Seigneur revient bientôt et que le monde est en pleine déliquescence, c'est que les hommes vont maintenant, et c'est toutes les nations, il est dit, toutes les nations vont maintenant, la terre entière va devenir, comme le texte le dit, un repaire de démons. Et ils ont pu à la coupe de cette abomination. Ça, c'est un signe. Attention, ne pas couper les systèmes d'alarme. Parce que si on ne veut pas voir ça, eh bien, on verra autre chose. Soit par négligence. Et Jésus nous en parle quand il nous a donné cette petite parabole du riche insensé. Parce que c'est bien ça, l'histoire de cet homme. Système d'alarme qu'on a coupé par négligence. Parce que le monde est enflammé par la fièvre du matérialisme et de l'argent. Cet homme, son problème, c'était ça. Je me suis enrichi, maintenant bois, mange, et puis réjouis-toi, etc., etc. Et puis, où tout tient une place prépondérante dans le raisonnement et dans la vie des gens, c'est la prospérité et la réussite. Ou alors par insouciance, c'est la parabole du fils prodigue. Il ne savait pas où il allait mettre les pieds, mais il y était quand même. Parce que le monde s'enflamme de convoitise et de plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. On parle aujourd'hui de jouissance à n'importe quel prix. Il y aura un prix, quoi qu'il en soit. Soit encore par l'indifférence, c'est la parabole des noces. Vous connaissez les serviteurs qui vont inviter pour les noces. Parce que le monde s'enflamme pour tout sauf pour Dieu. Le maître appelle, je vous ai invité à un banquet. Et tout le monde dit, ah ben moi j'ai autre chose à faire. Et puis ça ne m'intéresse pas, ceci et cela. Eh bien c'est bien le monde de l'indifférence aujourd'hui. On s'intéresse à beaucoup de choses, mais sauf à Dieu. Soit enfin par excès de confiance. C'était l'attitude stigmatisée par Jésus, l'attitude insensée des pharisiens. Parce que les passions brûlent par le fait religieux. On va parler encore beaucoup plus de religion dans les temps qui vont venir, vous allez voir. Alors religion en généralité, que ce soit le christianisme, l'islam, etc., etc. Oui, les passions brûlent à faire couler du sang, mais surtout pas pour la vraie spiritualité. Les gens vont vouloir du religieux. Ils vont vouloir ceci et cela, mais pas pour se convertir. Alors il y a deux conclusions, elles seront très claires, très simples. D'abord, c'est une exhortation interne à l'Église. Et cette exhortation interne à l'Église, nous la trouvons dans 2 Pierre, dans notre texte, 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18, où il est dit ceci, et je vous la lirai en version moderne tout à l'heure, après. Il dira ceci, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, » ça c'est pour l'Église, c'est pour nous, « qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et quand je le lis dans la version moderne, qui est un petit peu plus, je ne sais pas. « Quant à vous, dira l'apôtre, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde de ne pas vous égarer par les erreurs des hommes. » C'est une autre façon d'approcher le problème. Par les erreurs des hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que je remarque, c'est que nous sommes avertis. L'avertissement est réitéré ce matin à travers cette simple méditation. Que nous avons à nous mettre en garde contre les erreurs des hommes. À quelque niveau, ils nous présentent finalement leurs projets, leurs programmes et leur séduction. Mais il nous est demandé, vous gardez votre position de fermeté. Et pour garder votre position de fermeté, il n'y a qu'une chose, c'est de progresser dans la grâce du Seigneur et dans sa connaissance. Et si on sort de là, eh bien à ce moment-là, on ne pourra pas rester debout. Ça, c'est l'exhortation d'un monde en flammes et à l'instant, ça nous fait souvenir aux trois compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente, puisque je vous parlais d'incendie et de feu tout à l'heure, et qui ont marché sans dommage, victorieux du feu. Je relisais le texte tout à l'heure avant de venir parler, et il nous a dit que les cheveux n'avaient même pas brûlé, leurs vêtements n'avaient pas brûlé, et ils n'avaient aucune odeur sur eux. Dieu les avait délivrés du feu. Eh bien, nous vivons dans un monde en flammes. Et je crois qu'à partir du moment où on commence à sentir que ça brûle, et qu'on commence à être imprégné de l'odeur environnante, parce qu'il y a des avertisseurs sonores, il y a des avertisseurs visuels ou lumineux, mais il y a des avertisseurs aussi olfactifs. Il y a des choses qui sentent mauvais. Et c'est bien pour ça que Paul dira, nous annonçons Christ une bonne odeur de vie. Pour certains, et pour d'autres c'est une odeur de mort. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu qui le dit. On connaît notre Bible un petit peu. Deuxième exhortation, relative à notre service, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement entre nos murs, mais nous devons nous projeter aussi à l'extérieur. Et pour cela, eh bien, tout simplement, je reprends cette parole d'Ésaïe que nous avons lue en premier, quand il est dit ceci, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» C'est très poétique, j'aime beaucoup. Hein. « La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. » Parce que l'Église, elle est une sentinelle dans un monde de ténèbres. Et puis, l'Église, elle est aussi un phare dans la nuit. Vous savez qu'un phare, il ne brille jamais autant et aussi lumineusement que quand la nuit est très noire. Et je crois que c'est vrai que nous allons vers un obscurcissement, que nous allons vers où le mal va s'apesantir de plus en plus sur notre monde. Soyons des phares qui brillent dans la nuit. Et à ce titre aussi, je transmets cette parole dans Philippiens, c'est Paul qui dit ceci, toujours version moderne, chapitre 2, verset 14. « Soyez innocents et purs des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme des étoiles du ciel, version classique des flambeaux dans le monde, des étoiles du ciel, en leur présentant le message de la vie. » Je trouve que c'est magnifique. En leur présentant le message de la vie, ce n'était pas un message de condamnation. Parce que finalement, si le Seigneur n'était pas venu nous chercher, on serait parmi eux. C'est qu'il est venu nous chercher pour que nous ayons et que nous prenions conscience de la vocation à laquelle, eh bien, Dieu nous a conviés. Alors, discernons, frères et sœurs, les signes des temps. Ouais. Et ne débranchons pas, de grâce, ne débranchons pas les signaux d'alarme et tous les systèmes d'alarme. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage cet après-midi. Aujourd'hui, eh bien, nous allons repartir avec un cœur en disant, Seigneur, je veux être encore plus près de toi. Je veux m'approcher plus près de toi, je veux vivre pour toi et je veux te servir. Parce que dans ce monde, tu y as placé l'Église pour qu'elle soit aussi la lumière qui brille dans les ténèbres, le phare qui brille dans la nuit. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.